Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, afin que vous croissiez dans l'espérance et dans la force de l'Esprit-Saint. Mes très chers frères, en ce deuxième dimanche de l'Avent, l'Église nous donne les moyens de nous préparer utilement à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, venue liturgique dans la crèche bientôt, et mystique dans nos cœurs nous serons prêts. Dimanche dernier, notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons entendu, nous faisait un ordre de relever la tête et de placer toute notre espérance en lui, quand bien même toutes les apparences seraient contraires. Aujourd'hui, l'Église ne nous laisse pas simplement avec cet ordre du Seigneur qui nous paraît parfois trop difficile à mettre en œuvre. L'Église aujourd'hui, eh bien mes très chers frères, nous apprend à obéir à cet ordre. Et pour nous apprendre à obéir à cet ordre, elle nous donne une méthode, une marche à suivre. C'est pour cela que, en premier point, nous aurons à voir que dans le temps de l'Avent, on parle de deux réveils. Deux fois, on demande au Seigneur, trois fois en réalité, mais pour deux choses différentes, on demande au Seigneur le réveil. Nous devons et nous poserons la question, comment préparer les voies du Seigneur, ce qui nous amènera à faire un tableau de ce qui s'oppose à la venue du Seigneur. En deuxième point, nous verrons que l'exemple est la leçon de Saint Jean-Baptiste, qu'il nous donne aujourd'hui dans l'Évangile. Et nous verrons comment réaliser cette rectification, réaliser concrètement la rectification de notre cœur. Et nous nous posons la question, qu'est-ce que c'est que cet ange du Seigneur qui marche devant lui? Et nous verrons qu'il s'agit de quelque chose de bien concret dans notre expérience de chrétien. Et nous terminerons, en troisième point, par quelques conseils pratiques pour réaliser cette rectification des voies du Seigneur en nous. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
Tout d'abord, voyons ces deux réveils dont il est question dans l'Avent, le temps de l'Avent. Nous savons que la première oraison de l'Avent commence par le mot excita, c'est-à-dire réveiller. Et nous demandions au Seigneur qu'il excita potentiam tuam, réveillez votre puissance. C'est ce que nous redirons encore au quatrième dimanche de l'Avent. Donc il y a tout d'abord un premier réveil qui est demandé, et c'est le réveil de la puissance de Dieu. Mais l'Église nous fait demander successivement deux réveils. Le réveil de la puissance de Dieu, et aujourd'hui, le réveil de nos cœurs. Excita domine corda nostra. Réveillez, Seigneur, nos cœurs. Il y a donc deux réalités qui doivent se réveiller durant ce temps de l'Avent, sans lesquelles, sans le réveil desquelles, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas venir ni dans la crèche, ni dans nos cœurs. C'est dans nos vies. C'est tout d'abord la puissance de Dieu, nous l'avons dit, pour nous sauver. Et deuxièmement, nos cœurs doivent être réveillés pour profiter de la grâce, pour mettre à profit la grâce salvifique que Dieu veut nous donner, et qui nous a déjà donné dans le Christ, puisque nous avons tout pleinement en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons au Seigneur dans l'oraison, « Excita domine corda nostra ad preparandas unigeniti tui vias ». Réveillez nos cœurs, Seigneur, afin qu'ils préparent, ou afin de préparer, les voies de votre unique engendré, de votre Fils. Nous demandons donc au Seigneur qu'il réveille sa puissance, puisque sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais puisque il réveille sa puissance, il l'a déjà fait, puisqu'il a déjà exaucé notre prière de dimanche dernier, par la grâce de Dieu, il nous a déjà exaucé, donc il ne nous reste plus qu'à demander à ce que nos cœurs soient réveillés, eux-mêmes réveillés. Comment est-ce que nos cœurs sont réveillés ou pourquoi nos cœurs seraient-ils réveillés? Pas simplement pour prendre conscience du salut de Dieu et se tourner les pouces, afin de préparer. Comment préparer la voie du Seigneur? Eh bien, mes très chers frères, c'est très simple, cela nous est dit par le prophète, il faut préparer la voie du Seigneur en redressant ce qui est courbé. Comment préparer la voie du Seigneur? Comment se préparer durant ce temps de l'Avent à recevoir notre Seigneur dans notre cœur? en redressant tout ce qui est en nous, tout ce qui est en nous est dévié. Il s'agit donc, mes très chers frères, d'un travail de connaissance objective de soi. Parce que sans une connaissance objective de soi-même, il ne peut pas y avoir de rectification concrète. Si l'on dit en général, oui, je sais que je suis un pécheur, et il faut que je renonce à mes péchés, c'est très bien. C'est une formule qui est juste, c'est une formule qui est sainte et digne d'être proférée. Mais c'est une formule trop générale. Je suis pécheur, mais à la rigueur, l'Écriture dit tout homme est pécheur. Je suis pécheur, et si je m'en tiens à ce simple postulat vrai, mais général, eh bien, d'une certaine manière, je trouverai toujours plus pécheur que moi. Je me tourne vers mes frères, je me tourne vers les gens de l'extérieur, et qu'est-ce que je vois? Je vois des gens par rapport auxquels je suis un saint. Donc, il se trouve que il ne suffit pas de dire « je suis pécheur », il faut dire « j'ai tel péché ». Mais je vais vous dire, mes très chers frères, il ne s'agit pas simplement de dire « voilà, il se trouve que je commets tel péché ». Bienheureux celui qui peut le dire, il a déjà fait un pas en avant. Mais il faut que nous remontions à la source des péchés. Si nous avons un pommier dans notre jardin, et que chaque année il porte des pommes, et que nous n'aimons pas les pommes, imaginons que nous n'aimions pas les pommes, et que chaque année il porte des pommes, et que chaque année quand les pommes commencent à apparaître sur les branches, nous allions et que nous les arrachions toutes. Mais l'année d'après, les pommes vont recommencer à pousser. Le fait d'avoir arraché les fruits à un arbre ne l'a jamais, jamais empêché de porter des fruits. On dit même que, et c'est fort juste pour vous mes frères qui vous occupez des vergers, etc., c'est que si vous enlevez sur un arbre fruitier en bonne santé, si vous enlevez les fruits malingres, si vous enlevez certains fruits, les autres fruits vont être plus gros. C'est vrai pour les bons fruits, mais c'est vrai aussi pour les mauvais fruits. Si dans notre vie, l'arbre de notre existence de chrétien porte des fruits de péché et que nous ôtons quelques-uns de ces fruits, mettons les plus laids, qu'est-ce qu'il va arriver? Il va arriver que les autres fruits de péché seront plus gros. Je suis vaniteux et je suis colérique. Je peux déguiser, nous le verrons dans un instant, ma colère en une vertu. Mais la vanité, personne ne peut déguiser en vertu la vanité. La vanité est quelque chose qui est odieux, qui est ridicule et qui nous rend presque associables. Parce que quand vous avez quelqu'un qui est totalement imbu de lui-même, cette personne-là devient très rapidement insupportable aux autres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai deux fruits sur les branches du vieil homme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arracher le fruit de la vanité, je vais laisser l'autre. Eh bien, tout ce que j'aurai arraché de fruits pour la vanité, eh bien, toute la sève du vieil homme, si j'ose dire, si j'ose parler ainsi, va se reporter dans le fruit de l'irascibilité. Et je vais devenir d'autant plus irascible que j'aurai fait un effort pour combattre la vanité. Et cela se comprend, cet exemple, on pourrait prendre n'importe quel autre exemple, hein, bien entendu. Mais, vous voyez, par exemple, si je fais l'effort d'arrêter d'être vaniteux. Le vaniteux est ridicule. Donc je prends conscience que je suis ridicule en me regardant tout le temps dans les glaces, chaque fois que je passe à côté d'une glace, je me regarde dedans, chaque fois que les gens, mes amis, que sais-je, mes frères, que se parlent des vertus de quelqu'un, je ramène les miennes et j'énonce les miennes. C'est insupportable. Donc je vais arrêter, je vais arrêter, je vais rassembler tous mes efforts, je vais arrêter de ce péché, je vais arracher ce fruit. Ça va produire de la frustration. Parce qu'en réalité, je reste vaniteux. J'aurai enlevé ce péché en moi, la pratique de ce péché, parce qu'il me rend odieux à mes compagnons dans ce monde. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir donc plein d'amertume, et je vais en quelque sorte renforcer mon autre vice, qui est le vice de l'irascibilité, par toute l'amertume qui n'aura plus, disons, qui est toute la frustration qui viendra du fait que j'aurai combattu ma vanité, mais pour des raisons humaines. Préparer les voies du Seigneur consiste à redresser ce qui est dévié. Or, nous le disions, cela nécessite un travail de connaissance objective de nous-mêmes et de rectification concrète de tous les aspects de notre vie. Donc nous disions, il ne sert à rien de s'attaquer aux fruits d'un mauvais arbre si nous voulons qu'il arrête de porter ses fruits. Si nous voulons qu'il arrête de porter ses fruits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le couper à la racine. Et la racine du mauvais arbre qu'est le vieil homme, c'est-à-dire cette structure de concupiscence qui est produite par la concupiscence qui demeure en nous nonobstant le baptême, eh bien, comment couper cette racine, dis-je? Eh bien, la racine, donc, avant de la couper, il faut savoir quelle elle est. La racine du vieil homme, de l'arbre du vieil homme, qui nous fait porter constamment des fruits de péché, c'est, vous allez peut-être être étonné de la manière dont nous le formulerons, au moins pour aujourd'hui, cette définition, la racine, c'est la complaisance envers nous-mêmes. Nous aurions pu dire, c'est la concupiscence, c'est-à-dire c'est l'amour de soi. Vous allez dire, il y a un amour de soi légitime, etc. Alors, la complaisance envers soi-même. Vous allez dire, c'est léger, la complaisance envers soi-même. Nous pensions que c'était que ça aurait été une racine plus forte. Mais en réalité, si vous regardez bien d'où les plus grands arbres tirent leur force, alors si vous suivez le tronc, vous passez sous la terre, vous voyez, il y a des grosses racines. Ensuite, ces racines s'amenuisent, mais ça ne veut pas dire que les racines très amenuisées est devenue toute comme une sorte de cheveux, de réseau de cheveux, ça ne veut pas dire que ce sont des racines qui sont faibles. Au contraire, ce sont les racines, ce sont les parties des racines qui captent le mieux la nourriture qui est dans le sol, l'eau, etc., qui la dirigent dans les grosses racines, qui font remonter tout ceci dans le tronc, et qui vont jusqu'aux branches et qui font porter du fruit. Ce complexe capillaire, si vous me permettez d'être un peu pédant en horticulture, ce complexe capillaire qui fait que en bout de chaîne, il y a des fruits de péché qui sont portés par notre vieil homme, c'est la complaisance envers soi-même, toute complaisance envers soi-même. C'est parce que je me préfère jusqu'au mépris de Dieu que je porte, en définitive, des fruits qui sont des fruits de honte et de péché. Donc rien ne sert de s'occuper des fruits chaque année, lorsqu'ils arrivent, ou à chaque occasion, lorsqu'ils se produisent, il faut s'attaquer à la racine. On ne rectifiera jamais concrètement sa vie et ses mœurs si l'on ne s'attaque à la racine de laquelle nos vices tirent leur force et les péchés tirent la sève qui les fait produire. La complaisance envers soi-même. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que toute complaisance envers soi-même est en réalité pour le chrétien, je parle pour le chrétien évidemment, l'homme qui n'est même pas chrétien, il a d'autres problèmes, son grand problème c'est qu'il est mort. Le chrétien est vivant, il est supposé être vivant, en tout cas il peut être vivant, il a reçu la capacité de devenir enfant de Dieu puisqu'il a reçu le baptême. Il se trouve que le chrétien doit donc comprendre que toute complaisance envers lui-même n'est autre qu'une trahison, un reniement du Messie qui vient. C'est un rejet, un ferment d'apostasie. Toute complaisance envers soi-même est finalement, en définitive, un ferment d'apostasie. Tous les chrétiens ne vont pas jusqu'à l'apostasie, Dieu merci. Mais il se trouve que, qu'est-ce qu'un péché, sinon l'affirmation de sa volonté propre contre la volonté de Dieu? C'est la transgression de la loi de Dieu par une créature qui est faite pour aimer Dieu et lui obéir. D'où vient le péché? Du fait que je me suis écouté moi-même et non pas Dieu. Regardez notre malheureuse mère Ève dans le paradis terrestre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté le serpent, elle a réfléchi, le fruit lui a plu et elle en a mangé. Elle a eu donc de la complaisance envers elle-même, elle a complètement oublié la loi de Dieu que lui avait enseigné son mari. Toute complaisance envers soi-même est donc une trahison et un reniement du Christ. Et nous avons été rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas donc simplement d'une action relativement anodine ou un oubli, il s'agit véritablement d'une trahison et d'un reniement. Et cette trahison et ce reniement, concrètement, s'opèrent par la moindre complaisance envers nous-mêmes. C'était l'erreur des Juifs qui, pour cela, n'ont pas accueilli le Messie. Ils se sont préférés eux-mêmes et ils ont dit, vous vous souvenez, c'est dans l'une de ces délibérations du Sanhédrin, qui était l'autorité légitime à l'époque, ils ont dit, si nous le laissons faire, les Romains viendront et ils détruiront notre temple. Ils n'ont pas compris, pour diverses raisons, mais qui ne nous intéressent pas aujourd'hui, ils n'ont pas compris qu'en préférant le Christ, ils auraient l'archétype même du temple, et que le temple, s'ils l'avaient reçu, n'aurait jamais été détruit, puisqu'il est le vrai temple. Donc voyez, mes très chers frères, c'est une erreur qui n'est pas nouvelle, mais c'est une erreur qui a fait que les Juifs ont rejeté le Messie, et c'est une erreur qui fait que les chrétiens rejettent aussi ce même Messie qui est venu pour les sauver. Donc nous avons plusieurs choses à voir quant dans le déploiement cette erreur de la complaisance envers nous-mêmes. Tout d'abord, si l'on peut dire, d'une façon relativement grossière, encore qu'elle soit subtile chez la plupart des chrétiens, c'est une certaine idée de notre justice propre. Nous nous glorifions de notre justice, et Dieu sait si le chrétien doit être, si le mot de chrétien, le nom de chrétien doit être synonyme du mot de juste, nous devons être des justes réellement. Mais nous devons comprendre que notre justice ne vient pas de nous-mêmes. Tout le bon qui est en nous vient de Dieu, vient de la grâce de Dieu qui fructifie en nous. C'est pour cela que le juste fait des actions justes et porte de bons fruits à la gloire de son Père céleste. Et ces bons fruits, qui sont à la gloire de son Père, luisent devant les hommes. Et il se trouve qu'ils viennent de l'application des mérites du Christ qui sont appropriés par l'organisme du baptisé, de telle sorte qu'il porte des fruits qui soient à la fois les siens et ceux du Christ. Fondamentalement les siens, mais comme il ne porte des fruits que par la sève qui est en lui, qui lui vient du cep, du tronc, eh bien il se trouve que c'est véritablement Dieu qui porte ses fruits en lui et par lui. Donc si nous nous glorifions de notre justice propre, nous faisons preuve de complaisance envers nous-mêmes et nous renions et nous trahissons notre Seigneur Jésus-Christ qui véritablement vit en nous et nous fait être des justes. Donc ça, c'est une façon, disons, d'être complaisant envers soi-même qui est, disons, théologiquement forte et très mauvaise. Il y a une autre façon d'être complaisant envers soi-même qui est tout aussi mauvaise, mais beaucoup plus fine, si j'ose dire, en tout cas du point de vue psychologique. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire preuve d'une indulgence envers nos défauts comme s'ils étaient précieux. Si l'on nous pose la question « quels sont vos vices ?» et que vous dites « voilà, je suis gourmand, je suis sensuel, je suis paresseux, etc. » on va vous dire « est-ce que vous aimez vos vices ?» Vous allez dire « non, bien sûr, puisque ce sont des vices, j'ai bien conscience, j'ai quand même été au moins une fois dans ma vie au catéchisme, j'ai bien conscience que qui dit vice dit mauvais. » D'accord, c'est vrai. Maintenant, les vices expérimentés en nous, tels malheureusement qu'il nous structure partiellement, c'est cet héritage du vieil homme que nous avons reçu de la nature. Bien souvent, si théoriquement nous les récusons et nous savons qu'ils sont mauvais, d'une façon pratique, nous les chérissons, ou en tout cas nous avons une certaine indulgence envers eux, comme s'ils étaient précieux. Vous voyez, je suis irascible, mais je suis une locomotive. Si je n'avais pas en moi cette puissance irascible, je ne serais pas un chef. Je suis paresseux, mais en réalité, je suis prudent. Si je n'étais pas un peu paresseux, je me lancerais dans toutes sortes d'activités, tandis que comme je ne fais rien, je suis prudent. Je suis faible, donc je suis en position d'autorité, mais je suis faible, je n'ose pas affirmer mon autorité. Oui, mais donc je fais preuve de la douceur évangélique. Non, non. Vous voyez, si je n'étais pas faible, je ne pourrais pas être doux. Ben non, c'est faux, c'est totalement faux. Je suis envieux. Je vois très bien les choses chez les hommes et chez mon prochain. Je suis envieux, j'ai tendance disons, à être envieux. Mais en réalité, c'est parce que j'ai le discernement des réalités. Je sais voir. Vous voyez, quand je vois que quelqu'un a un talent et qu'il ne le mérite pas, évidemment, je suis envieux. Mais ça veut dire que quand même, j'ai les yeux en face des trous et puis que je sais voir les talents qui se perdent. Et nous pourrions continuez et continuez, mes très chers frères, vous le savez très bien. Donc, vous voyez, il y a une façon d'avoir de la complaisance envers soi-même qui est de se glorifier de sa justice propre, ce qui est quand même, qui nécessite quand même une certaine, à la fois une grande justice, c'est vrai, mais aussi, d'une certaine manière, un grand amour de soi, un grand manque de reconnaissance, une grande ingratitude en réalité. Et puis, il y a une façon qui est plus, encore une fois, comme nous l'avons dit, qui est plus à la portée de tous les chrétiens, du chrétien moyen, si j'ose dire, c'est d'avoir une indulgence envers ses défauts, comme s'ils étaient précieux. Je suis vicieux, mais en même temps, quelque chose de bon en ressort. Toute auto-justification, mes très chers frères, est véritablement une impureté assumée. C'est-à-dire que chaque fois que j'essaye de justifier l'un ou l'autre de mes vices, l'un ou l'autre de mes péchés, je commets une impureté dans le sens où quelque chose de sale s'imprime sur mon âme. Alors vous allez dire, mais cette chose sale est déjà produite puisque j'ai déjà péché, j'ai déjà un vice. C'est vrai. Notez bien, un vice peut être tellement bien maîtrisé qu'il ne se manifeste plus. Et donc il n'est plus source d'impureté. Il est comme anesthésié, comme disent certains auteurs. Il est comme engourdi, tellement mort. C'est comme un serpent. Vous savez, en hiver, des fois, on trouve des serpents dans la nature. Ils sont encore vivants, mais comme ils ont le sang froid, ils sont tellement engourdis qu'on dirait un bâton. Et c'est justement les serpents. Justement, ces serpents-là, il ne faut pas les réchauffer, justement. Donc, vous voyez. Mais donc, un vice qui produit un péché peut être si bien maîtrisé par la grâce qu'il ne produit plus rien. Ne produisent plus rien. Maintenant, il se trouve que lorsque j'ai des vices et qu'ils me font faire des péchés, je peux toujours me laver de mes péchés en me confessant. Mais il se trouve que lorsque je commets des péchés à cause de ce vice, et que je me confesse parce que je sais que ce sont des péchés, mais que par ailleurs j'ai de l'indulgence envers ce vice, mon âme est comme maculée d'une tache et d'une souillure bien plus grande que celle commise, qui est produite par les péchés, simplement les péchés, si j'ose dire. Toute auto-justification est une impureté assumée. C'est pour ça que dans l'oraison, je ne fais que suivre la liturgie, c'est pour ça que dans l'oraison, nous disons ceci, la même oraison que nous sommes en train de survoler. Réveillez nos cœurs, Seigneur, pour préparer les voies à votre Fils unique, afin que, sa venue nous donne de pouvoir vous servir avec des âmes purifiées. Purificatis mentibus. Par des âmes purifiées. Nul ne peut servir Dieu, mes très chers frères, que par une intelligence purifiée. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire une intelligence purifiée? Alors, dans la traduction que j'ai sur les yeux, on dit les âmes purifiées. C'est vrai, mais mens, ça veut dire aussi intelligence. Ça veut dire, on peut le traduire par âme ou esprit, mais on peut le traduire aussi par intelligence. Notre intelligence est impure, donc très impropre. Elle est capable de servir Dieu, mais elle est très impropre au service de Dieu. Elle est impure, notre intelligence, dis-je, est impure lorsque nous manifestons de la complaisance envers nous-mêmes, spécialement lorsque nous avons de l'indulgence envers nos défauts et nos vices. Notre intelligence est impure, et donc nous ne sommes pas aptes à servir Dieu, et encore moins, évidemment, à préparer les voies au Seigneur dans notre cœur, afin de pouvoir le servir réellement. L'amour-propre, mes très chers frères, c'est-à-dire cet amour que nous portons à nous-mêmes, tel que la théologie le définit, et qui n'est autre que la concupiscence, la triple concupiscence personnifiée, disons, par nous-mêmes, par cet aspect du moi qui est mauvais, ce moi détestable et haïssable, l'amour-propre, eh bien, est une impureté et une source d'obscurcissement de l'intelligence. Impureté parce qu'il souille notre âme par une tâche qui provient de la racine même du péché. Vous savez que dans certaines plantes, la racine produit la couleur de la plante. Et si vous écrasez la racine, vous avez la couleur de la plante sur les doigts. La racine du péché, ici, c'est l'amour propre. Si vous écrasez l'amour propre, vous aurez déjà l'impureté du péché. Même si l'amour propre n'arrive pas à aller jusqu'aux fruits, à produire des fruits, l'amour propre est à lui-même la production de sa propre impureté. Et c'est une source d'obscurcissement de l'intelligence. C'est-à-dire que si nous nous aimons nous-mêmes d'un amour désordonné, si nous avons de l'indulgence envers nos défauts, si nous avons de la complaisance envers nous-mêmes, tels que nous sommes mauvais évidemment, eh bien, ou même bons, mais bons par la grâce de Dieu, et donc du coup devenant mauvais parce que nous nous approprions notre bonté qui vient de Dieu, eh bien l'intelligence devient obscurcie. On ne prépare pas la voie du Seigneur, on ne prépare la voie du Seigneur qu'en montant au-dessus de soi-même, par l'intelligence tout d'abord, c'est-à-dire par le jugement de soi-même. C'est pour ça que nous disions au début de ce point, nous devons avoir une connaissance objective de nous-mêmes, autant que cela est possible, c'est vrai. Mais enfin, c'est quand même plus possible qu'on peut l'imaginer. Nous devons avoir une connaissance objective de nous-mêmes. Il faut savoir, mes très chers frères, que beaucoup d'auteurs spirituels nous disent que si nous prenions conscience de l'étendue de notre malice, de la profondeur de nos vices et de les dimensions de notre méchanceté, en une seule fois, nous serions tellement atterrés que nous pourrions tomber dans le désespoir. C'est donc, lorsque nous nous aimons nous-mêmes, c'est donc, sous un certain rapport, presque un instinct de survie qui fait que nous nous aveuglons les yeux de notre intelligence, pour ne pas nous voir tels que nous sommes. Que Dieu nous donne de nous voir tels que nous sommes, mes très chers frères, mais de son point de vue. Il y a des gens qui se voient tellement mauvais, tellement tarés, tellement vicieux, eh bien qu'il se suicide. Sous un certain rapport, c'est généreux par rapport à la société. Si vous savez que vous avez des vices tellement, tellement monstrueux que vous ne pourrez pas ne pas passer à l'acte et donc vous vous tuez, d'une certaine manière, d'un point de vue simplement naturel, vous faites quelque chose de bon par rapport à la société. Mais il ne faut pas le faire, parce que nul n'a le droit de posséder sa propre vie. Maintenant, il se trouve que si nous sondons notre propre malice par nos propres moyens, nous allons tomber, si nous ne tombons pas dans une admiration éperdue de nous-mêmes, eh bien, nous allons tomber dans le désespoir. Il faut que nous nous voyions du point de vue de Dieu. Et c'est pour cela que dans la liturgie d'aujourd'hui, dans l'antenne de communion, il est dit « Lève-toi, Jérusalem, et tiens-toi sur la hauteur, et vois la joie que Dieu t'enverra. » Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur. Notre cœur est une petite Jérusalem, puisque Dieu y habite. Donc, il nous faut nous lever sur la hauteur, c'est-à-dire monter par notre esprit au-dessus de nous-mêmes et nous voir avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire avec des yeux sans complaisance du point de vue humain, c'est-à-dire nous devons nous regarder nous-mêmes sans complaisance, mais comprendre que Dieu ne nous regarde pas, puisque nous sommes ses enfants, il ne nous regarde pas avec un regard de colère inexorable, mais il nous regarde avec un regard de compassion qui ne veut que notre salut. Je ne veux pas la mort du pécheur, dit notre Seigneur dans le prophète, mais je veux qu'il se repente, qu'il fasse pénitence et qu'il vive. Si nous nous voyons tels que nous sommes, c'est-à-dire mauvais, nous aurons tendance ou bien à nous accepter tels que nous sommes, ce qui est une chose terrible, ou bien à être désespérés. Si nous nous voyons tels que Dieu nous voit, il nous voit, si j'ose m'exprimer par un latinisme, il nous voit devant être pénitent. Quand nous nous voyons devant être pénitents, nous nous voyons sans complaisance, puisque ne doit être pénitent que celui qui a de quoi faire pénitence, et Dieu sait si c'est notre cas, et en même temps, il se trouve que nous nous voyons avec le regard de la charité divine qui n'est autre que Dieu lui-même. Lève-toi, Jérusalem, et tiens-toi sur la hauteur. Levons-nous, mes très chers frères, durant ce temps de l'Avent, et tenons-nous au-dessus de nous-mêmes, en nous jugeant nous-mêmes à la lumière de Dieu, sans aucune complaisance envers nous-mêmes, et nous comprendrons combien Dieu nous aime et combien Dieu peut nous transformer. Paradoxalement, la connaissance de notre néant et de notre impureté nous conduit à la joie. C'est pour cela qu'il est écrit « Et vois la joie que Dieu t'enverra ». Elle nous conduit à la joie parce qu'elle nous conduit à considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme la source de tout bien, comme le soleil qui dissipe la nuit. Lorsque l'on est en plein air, à l'extérieur, dehors, la nuit, et qu'il fait froid, et que l'on voit le soleil qui commence à se lever, on n'est pas en train de se dire « Oh là là, qu'est-ce que la nuit est froide », etc. Quoi que nous ayons froid, notre cœur se réjouit à l'idée de voir, enfin à la vue de ce soleil qui se lève progressivement, et nous savons que nous allons nous réchauffer. Nous sommes encore transis de froid, et pourtant notre cœur est dans la joie comme quelqu'un qui bénéficie déjà de la chaleur pleinement développée du soleil. Eh bien, lorsque nous nous regardons nous-mêmes, lorsque nous montons au-dessus de nous-mêmes en esprit, que nous nous jugeons sans complaisance à la lumière de la loi de Dieu, mes très chers frères, il se trouve que nous nous voyons ténèbres, nuit, corruption, mais nous voyons en même temps aussi toute la puissance de la grâce. C'est pour cela, mes très chers frères, qu'une trop grande tristesse envers nos propres défauts relève en réalité non pas d'une intelligence éclairée par la loi de Dieu, par la foi, mais paradoxalement d'un orgueil caché. C'est-à-dire qu'on se lamente de ne pas pouvoir se réformer efficacement nous-mêmes par nos propres forces. Et c'est une façon d'être encore orgueilleux. Vous voyez, je suis mauvais et je me sens tellement faible. Oui, de toute façon, nous sommes faibles. Même si nous étions plus forts, nous ne serions jamais que mauvais, mais plus forts. Il nous faut nous reconnaître nous-mêmes mauvais, impurs, néants, et nous réjouir au-dessus de nous-mêmes de voir le soleil de justice qui vient pour nous rendre justes. Alors vous allez dire, bon, tout ceci est très bien, nous avons compris, c'est plutôt encourageant, Deo gratias, mais comment mettre tout ceci en pratique? Eh bien, c'est très simple, il suffit de continuer à explorer les textes de la messe d'aujourd'hui. Écoutez ce que dit l'Évangile. En ce temps-là, Saint Jean-Baptiste, ayant appris dans sa prison les œuvres du Christ, envoya deux de ses disciples lui dire « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, allez raconter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. L'Église nous donne l'exemple de Saint Jean-Baptiste, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui. Lorsqu'il n'était pas encore né, il a tressailli de joie à l'approche du Verbe incarné, porté par la Bienheureuse Vierge Marie, lors du mystère de la visitation de la Bienheureuse Vierge Marie à sa cousine Sainte Élisabeth. Vous savez que Saint Jean-Baptiste, qui n'était pas encore né, a tressailli de joie, comme en a témoigné sa mère. Il a tressailli de joie à l'approche du Verbe encore caché. Au bord du Jourdain, il a désigné l'agneau de Dieu à ses disciples. Et certains d'entre eux, comme Saint André par exemple, l'ont suivi. Mais pour accomplir sa mission, pour réaliser totalement sa mission, mes très chers frères, il devait non seulement être enfermé dans un cachot, mais encore se dépouiller lui-même, nous disent les pères, de ses disciples en les envoyant tous au Messie. Lui-même ne doutait pas, bien entendu, que ce fut le Messie, mais nous disent certains pères, il a fait poser cette question aux disciples à ses propres disciples, afin que d'obtenir une confession de la part du Messie lui-même de sa messianité. Êtes-vous celui qui doit venir? Et le Messie, que leur dit-il? Il dit, je fais toutes les œuvres du Messie. Cette ambassade qu'il a envoyée auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, lui étant déjà en prison, témoigne, nous disent les auteurs, de son humilité. Il se renferme en lui-même dans sa prison avec Dieu seul qui le couronnera bientôt du martyr. Il y a quelque chose d'admirable dans Saint Jean-Baptiste, c'est que lui qui a formulé cette formule, qui nous a enseigné cette formule fondamentale de la vie chrétienne, il faut qu'il croisse et que je diminue, a été l'exemple même de la diminution. Lorsque le Christ a commencé à prêcher, après son baptême et la tentation au désert, lorsqu'il a commencé à prêcher, Saint Jean-Baptiste a commencé à décliner. Lorsque le Christ avait déjà fait voir des aveugles, fait marcher des boiteux, avait guéri des lépreux, avait fait entendre des sourds, avait déjà ressuscité des morts, avait évangélisé les pauvres, Saint Jean-Baptiste était renfermé sous un prétexte vil, par le roi Hérode, dans un cachot. Et Saint Jean-Baptiste terminera sa vie amputé de la tête à la demande d'une danseuse impure auquel le roi voulait plaire, comme vous le savez. Saint Jean-Baptiste est l'exemple même de ce qui arrive lorsque notre Seigneur croit réellement et que l'homme, par une intelligence purifiée, prépare les propres voies dans son cœur à notre Seigneur. La rectification de nos mœurs place nos sens, nous disent les auteurs, dans la prison de la loi divine et des commandements. Saint Jean-Baptiste n'aurait pas pu accéder à la gloire du martyr autrement qu'en prison. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous le savez, lorsqu'il fut ressuscité, n'apparaissait jamais, en tout cas à Jérusalem, aux apôtres, que toute porte étant fermée. Et les auteurs nous disent que cette fermeture des portes, cette prison de Saint Jean-Baptiste, correspond à la sensibilité, c'est-à-dire tous les sens, les cinq sens, parfaitement maîtrisés. Lorsqu'on maîtrise parfaitement ces sens, on est entièrement fermé à toutes les sollicitations, toutes les choses qui viennent de l'extérieur par le biais de la concupiscence. Cela peut paraître étonnant, mais nous passons rapidement, ce n'est pas un cours sur les sens, sur les cinq sens, c'est un cours sur la façon de maîtriser, de se maîtriser soi-même et de rectifier ses mœurs. Saint Jean-Baptiste est donc notre exemple, dans le sens où il s'enferme lui-même, parce qu'il a consenti à son martyr, à son emprisonnement, à son martyr, il ne s'est pas rétracté en disant « oui, je suis peut-être allé trop loin en critiquant vos mœurs, votre majesté, peut-être si vous pouvez me faire sortir, j'ai d'autres choses à faire ». Non, il a persévéré à dire ce qu'il disait à Hérode, qui venait d'ailleurs le visiter, et en prison, et il est resté en prison jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire encore pendant quelques mois. Saint Jean-Baptiste nous enseigne donc, c'est là la grande leçon, et c'est une leçon qui fait frémir, mais s'il y a quelque chose qui frémit en vous, mes très chers frères, sachez que c'est le vieil homme, ce n'est pas l'homme nouveau. Saint Jean-Baptiste nous enseigne donc cette leçon fondamentale qu'il faut que nos sens, que la rectification de nos mœurs place nos sens dans la prison de la loi divine. Je vais dire, est-ce que ce n'est pas formulé d'une façon qui est un peu dissuasive? Alors il faut le dire à Saint Jean-Baptiste, puisque c'est la leçon de Saint Jean-Baptiste que nous enseignent les auteurs, les commentateurs. Si nous ne mettons pas notre personne, pour laquelle nous n'avons désormais plus de complaisance, depuis notre premier point, dans la prison de la loi divine, nous continuerons à nous répandre dehors et nous continuerons à croître aux dépens du Christ, c'est-à-dire de cette semence de salut qui a été mise en nous par le caractère baptismal. Il nous faut donc renfermer nos sens dans la prison de la loi divine et des commandements des 10 commandements et de tous les commandements de Dieu. Et de l'Église, bien entendu. Vous allez dire, oui, mais si je me mets en prison, comme ceci, donc, c'est-à-dire moralement et intellectuellement, disons, du point de vue des racines, par la foi, si je me mets en prison, cela risque de nuire à mon devoir d'État. Alors, regardez, j'ai tel ou tel devoir d'État, et vous pourrez citer tous les devoirs d'État, ça marche pour tous. Si je me mets dans une telle situation, je vais rester complètement dans une forme de d'ombrilisme pieux, et je ne vais plus rien faire. Erreur, mes très chers frères. Vous pensez bien que c'est faux. Vous pensez bien que c'est faux. A priori, je vais montrer pourquoi c'est faux. Vous pensez bien que c'est faux, puisque c'est quelque chose, c'est un raisonnement qui s'oppose à l'enseignement de Saint Jean-Baptiste, donc de l'Écriture, donc de l'Église. Si quelque chose s'oppose à l'enseignement de l'Église, c'est donc que cette chose est fausse. Et si elle nous paraît vraie, c'est que nous nous trompons. C'est le contraire qui est vrai. Nous nous posons la question, cela s'oppose-t-il à notre devoir d'État? C'est le contraire, au contraire, c'est l'inverse. Cette mise en prison de nos sens, et donc de notre intellect, de tout, dans la prison de la loi divine, cet enfermement dans la prison de la loi divine, c'est le contraire, c'est l'inverse de la dissipation, de la dispersion. Combien de fois, mes très chers frères, reconnaissons-le très humblement, combien de fois nous avons nui à notre devoir d'État par une très grande dispersion? Nous devions faire une chose à un moment donné, et nous avons fait autre chose. Pourquoi? Et cette chose, nous l'avons faite parce que, par inclination, par fatigue, par lassitude, par désœuvrement, nous nous sommes dispersés. Nous nous sommes dissipés, tant en esprit qu'en action. Vous voyez, mes très chers frères, c'est la condition préalable, cette mise en prison, dans la prison de la loi divine de nos sens, c'est la condition préalable à une vie faite d'actions sanctifiées. Si nous nous maintenons volontairement dans les limites de la loi de Dieu, ou dans la prison de la loi de Dieu, parce que nous sommes tellement des rebelles que nous méritons d'être en prison dans la loi de Dieu, mais c'est une prison qui est un palais véritablement, mais seuls ceux qui aiment la loi de Dieu se rendent compte que c'est un palais, en réalité le palais du roi. Mais si nous nous maintenons volontairement dans cette prison de la loi divine, alors véritablement nos mœurs vont s'en ressentir dans le sens où nous allons nous concentrer sur nos devoirs d'État, et nous allons donc progresser à grands pas dans la sanctification, car vous le savez, on ne peut se sanctifier que par les divers devoirs qui relèvent de notre état, ou de nos divers états. Des fois, il y a plusieurs états qui se cumulent, mais enfin bon, il se trouve que nous ne pouvons nous sanctifier qu'en étant fidèles à nos divers devoirs d'état. Tout ce que nous faisons, mes très chers frères, peut devenir action sanctifiée, sanctifiante, action glorieuse, action divine, et doit l'être en réalité. Tout ce que nous faisons peut devenir ceci, dans la mesure où cela, nous l'avons dit, relève de notre devoir. Ensuite, où cela est fait pour l'amour de Dieu. Souvent, je constate souvent qu'on intervertit, on dit « il faut tout faire pour l'amour de Dieu », et spécialement ce qui relève de notre devoir. Oui, disons, d'une certaine manière, ce n'est pas faux, mais disons que ça peut cacher un vice. C'est-à-dire qu'il faut s'apprêter à ne faire que les actions qui relèvent de notre devoir d'État, et toutes ces actions-là, il faut les faire pour l'amour de Dieu. Si je fais une action qui est en dehors de mon État, je ne peux pas la faire pour l'amour de Dieu. Je pense que je la fais pour l'amour de Dieu, je m'imagine, je rêve, je délire, c'est vrai que sais-je, que je la fais pour l'amour de Dieu. En réalité, je ne la fais pas pour l'amour de Dieu, parce que ne peut être fait pour l'amour de Dieu que ce qui relève de ce que Dieu lui-même nous a demandé de faire. Si un patron demande à son employé de, je ne sais pas moi, le patron des balayeurs lui attribue à un balayeur une rue, une petite rue, une ruelle, que sais-je, et que le balayeur ne balaye pas sa ruelle, mais va faire une avenue, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura fait quelque chose de grand, peut-être, qu'il aura balayé une avenue, mais la ruelle va être sale. Et ce qu'on lui a demandé, c'est de faire le nettoyage et le balayage dans la ruelle. Pourquoi? Parce que, avec le matériel dont il dispose pour balayer la ruelle, il ne peut pas efficacement balayer l'avenue. On balaye l'avenue, si j'ose dire, avec des machines, des voitures balayes, que sais-je. Avec un balai, on peut très bien balayer une ruelle. Donc, il aura eu l'impression de faire un énorme travail en balayant toute l'avenue avec son balai, mais en réalité, il aura fait le travail à moitié ou d'une façon mauvaise, d'une façon défectueuse. Et en plus, il n'aura pas fait ce qu'on lui aura dit. Alors, est-ce que son chef va lui dire, vous ne m'avez pas obéi, mais enfin, merci quand même, parce que c'est très bien. Non, il va dire, non seulement vous ne m'avez pas obéi, mais en plus, vous avez gêné vos collègues qui étaient supposés nettoyer l'avenue et que vous avez plus ou moins injecté de l'avenue sous prétexte que c'est vous qui vous occupiez du nettoyage. Donc, du coup, la ruelle est sale et l'avenue est mal nettoyée. On ne peut donc, mes très chers frères, incrustons-nous ceci profondément dans l'intelligence, si nous ne voulons pas avoir une intelligence défectueuse, on ne peut se sanctifier que par le moyen des devoirs d'État. On ne peut faire une chose pour l'amour de Dieu que dans la mesure où elle relève de notre État, ou alors d'une action qui est nécessitée par la morale chrétienne, évidemment, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais il se trouve, vous voyez, faisons notre devoir d'État pour l'amour de Dieu, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'amour de Dieu? Ça pourrait être une sorte de motivation pour faire des choses d'une façon qui sont grandiloquentes et mal faites. Non, faisons tout, ne faisons que notre devoir d'État pour l'amour de Dieu en esprit de pénitence. L'esprit de pénitence permet de vérifier la qualité de l'amour de Dieu. Si nous avons compris le premier point, ne rien faire que de notre devoir d'État, si nous voulons mettre en pratique le deuxième point, pour l'amour de Dieu, mettons aussi en pratique la vérification en esprit de pénitence. Je me contente de faire ce que je dois faire, et ce qui est déjà énorme. Tout ce que je le fais pour l'amour de Dieu, mais si je ne le fais pas dans l'esprit de pénitence, je vais me lasser. Il va me sembler que la gloire de Dieu, qui va de pair avec son amour, la gloire de Dieu ne ressort pas assez du devoir que je fais. Donc, par exemple, imaginez, je suis une ménagère et je prépare chaque jour la nourriture pour mes enfants, mais il me semble que ce n'est pas assez brillant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un blog où je vais montrer comment une ménagère chrétienne prépare avec amour le repas pour sa famille. Vous dites, c'est ridicule. Non, c'est pas ridicule, c'est un phénomène. Apparemment, c'est un phénomène aux États-Unis. Où des femmes qui se veulent traditionnelles se filment et se mettent en spectacle parce qu'elles se veulent des femmes traditionnelles. Alors évidemment, il y a un certain nombre de gens qui s'imaginent que c'est merveilleux et que c'est un grand pas en avant, petit pas pour la technologie, un grand pas pour la tradition. C'est surtout se moquer du monde et ne pas avoir l'esprit de pénitence. Ne faire que son devoir d'État pour l'amour de Dieu, sans se lasser et en acceptant l'obscurité, l'oubli, en acceptant la leçon de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui, auprès duquel des foules entières venaient se faire baptiser du baptême de pénitence, se trouve non seulement en prison, mais en prison, il fait partir ses disciples qui étaient là pour le consoler, afin qu'ils aillent rejoindre le Christ. Si ce n'est pas cela diminué dans les règles de l'art, nous ne pourrons jamais avoir un meilleur exemple de diminution. Donc, vous voyez, ne faire que son devoir d'État. Voilà comment on rectifie nos mœurs, voilà comment on prépare en toute intelligence les voies du Seigneur pour qu'il vienne. Et d'une certaine manière, en préparant les voies du Seigneur, c'est qu'il est déjà là. Mais il peut être là d'une façon plus sensible, plus visible. Ne faire que son devoir d'État, pour l'amour de Dieu, dans l'esprit de pénitence. N'oublions jamais cet esprit de pénitence qui nous fait accepter le manque d'éclat de notre État, de nos devoirs d'État accomplis pour l'amour de Dieu. J'ai l'impression que c'est fastidieux, j'ai l'impression que personne ne me dit merci, j'ai l'impression que personne ne me remarque. Esprit de pénitence. L'esprit de pénitence nous rendra parfait notre charité, comme il a rendu parfait Saint Jean-Baptiste, en voyant ses disciples au Christ dans sa prison. Et c'est ainsi que nos devoirs d'État, faits pour l'amour de Dieu en esprit de pénitence, seront, les actions qui procèdent de ces devoirs ne seront que les actions divines. Ce seront des actions divines. Ce seront véritablement les actions de Dieu, car elles procéderont véritablement et sans aucune impureté de la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que notre Seigneur dit « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert un prophète ?» Oui, je vous le dis, plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il a été écrit « Voici que devant votre face, j'envoie mon ange qui préparera la voie devant vous. » Parole du Seigneur au Messie. Qu'est-ce que, du point de vue de notre expérience, qu'est-ce que l'ange de Dieu qui prépare les voies du Seigneur? Eh bien, dans notre expérience de chrétien, c'est la vie concentrée, la vie mortifiée, la vie émondée de tout superflu charnel, mondain et diabolique. Un petit théologien dira, c'est une vie qui est dans une parfaite maîtrise de la concupiscence. Oui, mais si nous l'avions dit comme cela, c'est vrai, mais si nous l'avions dit comme cela, ça ne serait qu'une formule belle, c'est vrai, mais qu'on laisse dans un livre, qu'on laisse dans un sermon, qu'on laisse dans sa mémoire, on dit, j'ai entendu une belle formule, une vie dans laquelle la concupiscence est entièrement maîtrisée. Oui, mais comment ? En faisant ce que nous avons dit, que nous devions faire. Et c'est ainsi, mes très chers frères, par cette vie concentrée, cette vie mortifiée, cette vie émondée de tout superflu charnel, mondain et diabolique, c'est cette vie-là qui est une vie véritablement, la vie de la grâce véritablement, et une vie qui correspond à cet ange de Dieu qui prépare les voies, cet envoyé de Dieu qui prépare la voie du Seigneur pour une plus grande effusion de son esprit et une plus grande conformité à sa nature. Cette humilité, parce que bien sûr c'est de l'humilité, cette humilité rend invincible. Il s'agit de renoncer non seulement à ses péchés, mais à soi-même, à son amour de soi-même, et je dirais même à son caractère défectueux, son caractère presque tout court, à ses tendances et même à ses talents naturels non rectifiés par la charité. Vous voyez, c'est beaucoup plus que détacher le fruit pourri qui s'appelle péché et qu'on doit confesser. C'est s'attaquer à la racine même de l'arbre du vieil homme, afin de préparer les voies du Seigneur et de porter des fruits qui ne soient autres que des fruits même de notre Seigneur Jésus-Christ, les fruits même de Dieu, des fruits divins. Mes très chers frères, c'est le béaba de la vie chrétienne en réalité. Je ne fais que commenter le catéchisme en réalité. Tout ceci, mes très chers frères, ce renoncement radical à soi-même nous rend capables de produire un fruit abondant et de luire véritablement à la gloire de Dieu. Vivre dans le désert, vivre dans la prison de cette rectification, donc mettre en œuvre cette rectification de nos mœurs et donc de la racine de nos mœurs, de notre cœur, c'est être le contraire d'un roseau agité par le vent, d'un homme vêtu mollement, avec mollesse. Comme dit notre Seigneur, qu'êtes-vous allé voir dans le désert, un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu avec mollesse? Non, nous dit notre Seigneur. C'est exactement le contraire. Saint Paul dira, courir à l'aventure, battre l'air. C'est exactement le contraire. Alors vous allez dire, oui, mais c'est un peu paradoxal. Alors il faut écouter, mes frères et chers frères. Nous sommes dans la prison de la loi de Dieu, c'est-à-dire que nous ne faisons que ce qui relève de notre devoir d'État par charité, pour l'amour de Dieu et en esprit de pénitence. Et alors nous devenons invincibles, alors nous devenons tout-puissants, alors nos actions ne sont autres que les actions même de Dieu, avec plus personne pour s'en glorifier et se les approprier. C'est plus qu'un prophète, dit notre Seigneur. Et si j'ose dire, pour nous encourager, je dirais qu'un tel homme est, sous un certain rapport, semblable à Saint Jean-Baptiste, plus qu'un prophète. C'est Dieu lui-même participé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ plus lui-même que nous-mêmes. Alors, comment... Quelle amorce donner à tout ceci pour que, vous voyez, pour que nous le mettions en vie, nous le mettions en marche, tout ceci, en œuvre. Vous voyez que ce n'est pas au-delà de notre portée, puisqu'il s'agit exactement de ne faire que ce qui est à notre portée, pour l'amour de Dieu, dans l'esprit de pénitence. Mes très chers frères, Saint Paul nous le dira, et nous terminons par ce dernier point. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction, dit saint Paul, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Comment parvenir à cet état de perfection figuré par saint Jean-Baptiste en prison? Je vous donnerai rapidement plusieurs conseils. Je nous les donne à tous, bien entendu. Il faut tout d'abord comprendre que ce que nous venons de dire, et la sainteté, la vie chrétienne normale en réalité, n'est pas un idéal, mais un mode de vie normal. Donc il ne s'agit pas de dire « Ah, bah tiens, aujourd'hui j'ai entendu un sermon sur la sainteté, j'y penserai quand ça sera mon tour de devenir saint ». Non, il s'agit d'être normaux. Tant que le chrétien ne pratique pas uniquement son devoir d'État pour l'amour de Dieu dans un esprit de pénitence, il n'est pas normal. C'est une sorte de monstre. Et ce n'est pas bien d'être un monstre quand on est rené par les eaux du baptême et qu'on est devenu enfant de Dieu. Un monstre, nous l'étions autrefois quand notre père était le diable. Ça, nous pouvions être des monstres avec toutes sortes de monstruosités. Nous sommes les enfants de Dieu. Si nous nous conduisons comme des monstres, nous péchons non seulement contre notre Créateur, mais nous injurions notre Père, ce qui n'est pas bien. Comprendre donc qu'il ne s'agit pas d'un idéal, mais de la vie chrétienne normale telle que Dieu veut que nous la pratiquions. Avec l'aide de sa grâce, cela va sans dire, mais c'est normal. Deuxièmement, deuxième conseil, il nous faut prendre conscience que Dieu nous a créés, comme dit la formule, que Dieu nous a créés, que Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. Qu'est-ce que ça signifie? Tout le monde le dit, c'est vrai, c'est très vrai. Mais ça veut dire que nous n'existons que pour lui obéir. Et lui obéir, c'est régner avec lui. Donc, une bonne fois pour toutes, mes très chers frères, renonçons à notre volonté propre et disons-nous, il faut que je m'attelle à être parfait dans mes divers devoirs d'État, à tout faire avec la charité, c'est-à-dire sans laquelle je ne pourrais pas, aucune de mes actions ne pourra être parfaite et ne pourra même être une bonne action à strictement parler, dans un esprit de pénitence, parce que je suis fait pour ça. Et si notre vieil homme nous dit, mais regarde, tous les païens, tous les mécréants qui vivent pour eux-mêmes, en réalité, on peut très bien vivre sans obéir à la loi de Dieu et être normal. Dites-lui que on peut très bien utiliser un marteau pour se gratter la tête, si j'ose dire, mais ce n'est pas fait pour ça. Et à un moment ou à un autre, on va se blesser, parce que c'est trop lourd, ce n'est pas un outil qui est fait pour cela. Le marteau est fait pour enfoncer des clous. L'homme peut très bien, techniquement, vivre sans Dieu. Mais non seulement il le paiera à la fin, mais il commence à le payer déjà pendant sa vie, le malheureux. Mettons-nous bien cela dans notre esprit, mes très chers frères, nous sommes faits pour obéir à Dieu, et obéir à Dieu, c'est véritablement participer à Dieu en réalité, mais cela ne peut être accessible qu'à l'intelligence de celui qui a déjà fait le pas de se cantonner à son devoir d'État, de tout faire pour l'amour de Dieu dans un esprit de pénitence. Sinon, ça reste théorique, et puis ça, à la rigueur, ça ne fait que l'objet d'un poste qui nous fera quelques pouces bleus supplémentaires. Troisième conseil, il nous faut se combattre soi-même avec méticulosité, avec stratégie et avec intelligence. Il ne s'agit pas de se jeter sur soi-même ou sur ses vices comme un fou furieux en disant je fais comme les Gaulois qui partaient simplement avec leur épée en main et en hurlant comme des fous. Oui, mais vous n'êtes pas des Gaulois, vous n'êtes pas face à vous des armées romaines plus ou moins décontenancées parce qu'elles voyaient face à eux. Vous êtes un chrétien face à ses vices. Donc il vous faut plutôt vous mettre à la place des grands stratèges pour bien vous connaître vous-même, bien connaître l'ennemi. Adopter la stratégie nécessaire, et c'est pour cela qu'il vous faut aussi trouver des bons directeurs, un bon directeur, afin qu'il puisse vous aider dans votre stratégie. Le plus grand stratège, même Napoléon, même Jules César, avait toujours des gens qu'il consultait. Il avait des espions pour lui dire exactement quelles étaient les particularités du terrain, etc. Il avait des cartes, il avait des conseillers, il avait des généraux. Il nous faut nécessairement prendre conseil. Évidemment, on peut prendre conseil à des gens qui nous donnent de mauvais conseils. On peut prendre aussi conseil à des gens qui nous donnent de bons conseils. Il nous faut nous combattre nous-mêmes avec méticulosité, stratégie et intelligence. Sinon, nous allons nous faire en quelque sorte ratatiner par nos vices et nous allons être découragés et nous allons dire « Eh bien oui, j'étais parti pour ne pas avoir d'indulgence envers moi-même. Maintenant, je n'ai toujours pas d'indulgence, mais j'ai du fatalisme, dans le fond, je suis comme je suis, je ne peux pas changer. » Non, 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 ça, c'est le triomphe du diable. Il faut que nos efforts soient persévérants. Il faut que nous nous attendions, comme un bon général, au découragement, à la défaite. Il faut que nous considérions la lassitude comme un piège du diable, et non pas comme la vérification de l'inanité des efforts à suivre. Je suis fatigué, je suis lassé, je suis retombé, donc ça montre bien que ça ne marche pas. C'est faux! Ça montre que vous êtes dans une guerre. Et que parfois, eh bien, il faut bien perdre des batailles pour gagner la guerre. Ce n'est pas que Dieu ne voudrait pas que nous ne remportions pas toutes les batailles, mais il se trouve qu'il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous ne sommes que poussière. Et nous savons que par la grâce de Dieu, le juste tombe 7 fois le jour et il se relève. Ça ne veut pas dire qu'il s'apprête à tomber 7 fois, mais ça veut dire que s'il doit tomber même jusqu'à 7 fois, celui qui nous a appris à pardonner 70 fois 7 fois, nous pardonnera, moyennant que nous désirions ne pas sortir de notre état, tout faire pour l'amour de lui et dans un esprit de pénitence. Un quatrième conseil, il y en aura beaucoup plus, mais nous terminerons par celui-ci, c'est que nous devons, comme nous le montre saint Paul, nous devons pratiquer, tout en étant des très fins stratèges, mener cette guerre avec intelligence et méticulosité, nous devons pratiquer la charité fraternelle. Alors vous allez dire, c'est un peu hors du sujet. Pas du tout. C'est saint Paul qui le dit. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pourquoi la charité fraternelle? Parce que je ne peux pas, d'ailleurs, tout d'abord parce que je fais partie du corps mystique du Christ et que j'ai des frères. Donc c'est un fait, je ne peux pas y échapper, je dois avoir la charité fraternelle. Maintenant, il se trouve que je ne peux pas m'en sortir aussi sans mes frères. De deux façons, il y a des frères qui me donnent de bons conseils, et puis il y a des frères qui me blessent. Il y a des frères qui sont à moi ce que le fer est au fer. C'est-à-dire qu'il y a des frères qui se comportent mal envers moi, eh bien, je dois peut-être encore plus les chérir parce qu'ils me montrent ce que je suis. Ces frères qui me blessent, ces frères, peut-être sans le savoir, parfois en le sachant, mais dans le fond, ça importe peu, ne sont que les outils de Dieu qui nous polit. Si nous sommes une pierre de diamant, de rubis, que sais-je, brute, et que nous savons que nous avons un très grand prix potentiellement, mais que nous refusons d'être mis sur le tour du diamantaire, nous n'arriverons jamais à cet état où nous aurons du prix. Nous resterons toujours une pierre brute, c'est-à-dire avec beaucoup moins de prix. Si nous refusons d'être offensés, si nous refusons d'être injuriés, si nous refusons d'être confrontés peut-être à ce que nous sommes, si nous refusons qu'on nous fasse des reproches, si nous refusons à ce qu'on nous dise des choses vraies ou fausses, et comment est-ce que nous pourrions, comment pourrons-nous accéder à cette connaissance objective de nous-mêmes? Vous allez dire, mais on me dit des mensonges. Mais dans tout mensonge, il y a un fond de vérité. Et il faut savoir en profiter. C'est ça l'intelligence spirituelle. Il ne faut rien rejeter de ce qui vient, parce que tout est utile. Tous ceux qui ont construit un mur et qui ont dû faire du remplissage savent très bien qu'à un certain moment, quand il s'agit de faire du remplissage, on utilise absolument tout. Et que des choses qu'on n'aurait jamais même considérées, utilisées, même portées nos yeux dessus, deviennent des très précieuses, des petits graviers, des n'importe quoi, des morceaux de parpaing cassés, des trucs qui ne valent rien. Ces choses-là, tout d'un coup, ont un prix et elles sont irremplaçables, on ne peut pas les remplacer par d'autres. On ne va pas faire du remplissage avec des diamants, on va faire du remplissage avec des chutes du gravat. Gardez les yeux, mes très chers frères, sur notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez à Saint-Pierre marchant sur les eaux. Il n'a commencé à couler que lorsqu'il a commencé à regarder ailleurs qu'à Jésus-Christ. Il faut, comme dit saint Paul, nous l'enseigne saint Paul, il faut lire et se nourrir de la Sainte Écriture. Et c'est pour cela qu'il dit, afin que tout a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Si nous ne connaissons pas les exemples de l'histoire sacrée, si nous, bien sûr, nous connaissons saint Jean-Baptiste parce que cela vient dans le deuxième dimanche de l'Avent, mais si nous ne connaissons pas la vie, que sais-je, d'Abraham, de Joseph, de Samson, et des autres, des rois, des grands rois, de David et les autres, comment est-ce que nous pourrons être encouragés? Comment est-ce que nous pourrons avoir la consolation que donnent les Écritures? Vous dites, mais je lis des bons livres, je regarde des vidéos, etc. Mais ce ne sont pas les Écritures, cela ne vous procurera pas de consolation. Quand on dit consolation ici, c'est au sens le plus maximal du terme. Il nous faut attendre le ciel, mes très chers frères, il nous faut attendre le ciel de telle sorte que nous soyons dans la joie lorsque nous nous entendons dire « Nous irons dans la maison du Seigneur », c'est le verset de l'Alléluia. En un mot, mes très chers frères, c'est ainsi, en faisant cet effort sur nous-mêmes, en faisant cet effort de nous élever au-dessus de nous-mêmes pour acquérir par la grâce de Dieu, par la lumière divine de la foi et la connaissance des commandements de Dieu, cette vision objective, cette connaissance objective de soi-même, afin de nous enfermer dans les limites de la loi de Dieu, c'est alors véritablement que nous expérimenterons ce que dit saint Paul, que le Dieu d'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, afin que vous croissiez dans l'espérance et dans la force de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.